Prologue. Avril 1946. Il y a des petits lits partout. Ils remplissent tout l'espace de cette salle bruyante, et chacun contient un bébé aux yeux grands ouverts. Ce n'est pas de l'espoir qu'on lit dans leurs yeux. Ils sont encore trop petits pour ça. Mais une sorte de besoin qui me va droit au cœur, et même plus profondément encore, jusque dans mon ventre. Voilà longtemps que je n'ai pas porté d'enfant. Mais peut-être cette sensation ne nous quitte-t-elle jamais vraiment. Peut-être que tous les enfants que j'ai mis au monde ont laissé derrière eux un petit fragment de cordon ombilical qui me rend plus sensible au regard des bébés. Et peut-être que tous les enfants que j'ai aidés à venir au monde au cours de mes 27 années en tant que sage-femme m'ont influencé de la même manière. J'avance de quelques pas dans la pièce. Les lits d'enfants sont vieux et sommaires, mais propres et faits avec soin. Dans l'un d'eux, un bébé pleure, et j'entends une voix de femme entonner une berceuse d'une voix douce et apaisante. Les pleurs s'arrêtent bientôt, ne laissant plus que la musique. Comme tout dans cette pièce, elle n'a rien de grandiose, mais elle est pleine d'amour. Je souris et prie pour que cet endroit soit celui que nous cherchions. Es-tu prête? Je me tourne vers la jeune femme qui se tient près de la porte. Elle en cramponne l'encadrement et ses yeux sont aussi écarquillés que ceux des petits orphelins.
Je ne suis pas sûre.
Je lui tends la main. Pardon, c'était une question idiote. Tu ne seras jamais prête, mais le moment est venu.
Et si ce n'était pas...
Dans ce cas, nous continuerons de chercher. Viens. Je la prends par le bras tandis que l'infirmière en chef avance entre les petits lits, sourire aux lèvres. Vous êtes là! Quelle joie de vous voir! J'espère que le voyage n'a pas été trop pénible. Je réprime un petit rictus amer. Le trajet de ce matin a été simple, mais les années l'ayant précédé n'ont été qu'horreur et souffrance. Nul ne devrait avoir à emprunter un chemin aussi éprouvant pour parvenir dans ce lieu délabré où brille faiblement notre unique espoir. Nous y avons laissé toutes deux beaucoup de force, et quoi que j'aie pu dire, je ne sais pas si elle ou moi aurions l'énergie d'aller plus loin. L'infirmière semble comprendre. Elle hoche la tête en posant une main sur mon bras. Les années noires sont derrière nous maintenant.
Je l'espère.
Nous avons tous beaucoup trop souffert. Je tourne les yeux vers mon amie qui s'est approchée du berceau le plus proche de la fenêtre. Il abrite une petite fille dont les cheveux blonds encadrent un visage grave, illuminé par le soleil. Voyant qu'on s'approche d'elle, l'enfant se redresse tant bien que mal sur ses petites jambes tremblantes mais déterminées. Mon amie presse le pas vers elle et tend une main à travers les barreaux du lit. La petite effectue le même geste et l'émotion me submerge. Il y a eu trop de barreaux, trop de barrières, trop de ségrégation et de division.
C'est elle ? Dis-je dans un souffle.
Son tatouage ressemble à ce que vous avez décrit. Répond l'infirmière en haussant les épaules.
Ressembler, ce n'est pas suffisant. Je sens mon cœur chavirer, et soudain c'est moi qui ne suis pas prête, et je voudrais à nouveau me retrouver sur ce chemin noir et âpre, car au moins, tant que nous marchons, l'espoir est encore permis.
Arrête ! Je suis à deux doigts de crier, mais le mot reste coincé dans ma gorge. Car ma jeune amie se penche déjà pour prendre l'enfant dans ses bras, et son visage est empreint de plus de détresse, d'envie et de besoin d'amour que tous ceux de ses petits orphelins réunis. L'heure est venue de connaître la vérité et de voir si nos cœurs pourront guérir. Première partie, Wooch. 1er septembre 1939. Esther. L'horloge de la cathédrale Saint-Stanislas sonnait les 12 coups de midi quand Esther Abrams s'assit avec soulagement sur ses marches. Elle offrit son visage au doux soleil d'automne, mais la pierre était froide sous ses jambes. Elle songea un instant à retirer son manteau pour s'en faire un coussin, seulement il était neuf et d'une couleur bleu pâle, qui faisait ressortir celle de ses yeux, d'après sa sœur cadette, et elle ne voulait pas prendre le risque de l'abîmer. Esther rougit en y pensant. Cet achat avait été une folie, mais Philippe était toujours tellement bien habillé. Sans extravagance,
Un apprenti tailleur n'était guère plus fortuné qu'une infirmière en formation, mais toujours avec goût et soin. C'était l'une des premières choses qui avait frappé Esther ce jour d'avril, quand il s'était assis à l'autre bout des marches, et qu'elle avait brusquement senti la sève monter dans tout son corps, comme les bourgeons devenus fleurs dans le cerisier d'à côté. Elle avait tout de suite baissé les yeux naturellement et avait grignoté lentement ses petits roulés aux champignons et aux choux fermentés, la spécialité de sa mère, sans en sentir le goût. Elle n'avait pas osé relever les yeux avant qu'il se lève pour partir. Elle revoyait encore sa longue silhouette élancée, presque dégingandée. Sa veste au tissu rêche mais coupée avec style. Sa kippa finement ourlée à l'arrière de sa tête. Elle le dévorait du regard quand tout à coup, il s'était retourné et l'avait regardé droit dans les yeux. Ce fut alors comme si son corps entier rougissait à ce contact, qui aurait dû n'être qu'embarras, mais s'apparentait davantage à de la joie. Le lendemain, elle était arrivée en avance, fébrile. Mais à midi, il n'y avait aucun jeune homme en vue, rien qu'un vieillard sous un chapeau mou, gravissant péniblement les marches à l'aide de sa canne. Elle s'était empressée d'aller l'aider, en partie parce que sa mère lui aurait dit de le faire, mais aussi dans l'espoir qu'une fois redescendue, elle verrait le jeune homme assis là. Hélas, il n'y était pas, et elle s'était vengée sur son bagueule en y mordant avec hargne, une hargne tellement aveugle que ce n'était qu'à la moitié de son repas qu'elle s'était rendue compte qu'il était revenu au même endroit que la veille. Il mangeait tranquillement son déjeuner en lisant un journal, à ceci près qu'il semblait plutôt regarder au travers que le lire vraiment. Six longs jours durant, ils avaient mangé à chaque bout des marches, tandis qu'à leurs pieds, les habitants de Łódź vaquaient à leurs occupations sur la rue Piotrkowska. Chaque jour, elle se repassait en boucle les phrases qu'elle voulait lui dire et qui se réduisaient à des bribes insignifiantes au moment d'aller lui parler. Et puis un jour, une femme était passée entre eux et avait émis un tss plein de désapprobation. Lorsqu'ils avaient relevé les yeux, la dame poussait déjà la porte de l'église et ils n'avaient pu faire autrement que de se dévisager. Toutes les belles phrases d'Esther s'étaient envolées. Et quand il avait fini par formuler une remarque creuse sur le temps, et qu'elle lui avait répondu encore plus bêtement, il s'était souri, comme s'il venait de conclure un débat du plus haut niveau. Peut-être avait-il vainement préparé ses phrases, lui aussi, s'était-elle dit. Une fois ses premiers mots échangés, les autres vinrent plus facilement. Et bientôt ils avaient commencé non pas à bavarder, ni l'un ni l'autre n'était du genre bavard, mais à parler simplement de petites choses de leur vie.
« J'aime bien ta kippa », avait-elle dit. « La bordure est très jolie. »«
Merci. Je l'ai brodée moi-même. »«
C'est vrai ?»
Il s'était empourpré, et Esther avait remarqué que, s'il avait les cheveux bruns, ses yeux étaient aussi bleus que les siens. « Je suis apprenti tailleur. On fait surtout des vestes, des pantalons et des chemises, mais j'aime beaucoup les... » Il avait tâté la bordure de sa calotte. Mon père appelle ça des fioritures. Il n'aime pas ça. Il trouve que la broderie, c'est pour les femmes.
Tu le fais tellement bien qu'il doit sûrement se tromper.
Il avait ri, un peu nerveusement. Merci. Je pense que les vêtements devraient exprimer ce que l'on est. Tout en se rappelant ce commentaire qui l'avait beaucoup étonné, Esther ajusta son manteau bleu clair autour d'elle. On lui avait appris que les vêtements devaient être propres, nets et modestes. Jamais qu'il pouvait parler d'autre chose que d'une maison bien tenue.
« Dis-moi en plus », avait-elle suggéré. Ce qu'il avait fait avec plaisir, si bien qu'elle serait volontiers restée là tout l'après-midi à l'écouter.
Sauf qu'elle ne disposait que d'une demi-heure pour déjeuner et que l'infirmière en chef de son service n'était pas du genre commode. Une seule minute de retard et l'on se retrouvait de corvée de bassins hygiéniques tout l'après-midi. En outre, ses parents avaient fait d'énormes sacrifices pour lui payer sa formation, et elle avait à cœur d'honorer leur effort. Elle avait eu du mal à le quitter et à se concentrer sur son travail après cela, mais il serait là le lendemain et le jour d'après, et elle avait vite chéri ses précieuses demi-heures de milieu de journée. Un rendez-vous qu'il ne manquait jamais. Alors, où était-il aujourd'hui ?